France Culture.
Les faits radicales à la recherche du gay spirit. Un documentaire de Pierre Chassagneux et Julie Béressy. Premier épisode, aux sources des faits.
Beste passagiers, van harte welkom aan boord namens de kapitein en de bemanning. De overtocht naar de Schelling duurt ongeveer 50 minuten.
Hallo. Hallo Gert, ça va? Je voulais juste te prévenir que on était sur le ferry, on avait quitté Harlingen et on se dirige vers Terschelling.
Très bien.
À tout à l'heure.
Débarqué sur l'île de Terschelling, tout au nord des Pays-Bas, Gert est venu nous chercher en voiture. 13 km nous séparent du lieu du rassemblement des faits radicales. Johnny Cash à fond dans le poste de radio. Une fois arrivé, c'est Françou qui nous fait visiter les lieux.
Cette maison, en fait, est une grange d'algues. Elle a été construite pour sécher et presser les algues pour l'exportation. Il faut se représenter ça comme une maison basse avec un grand toit rouge qui va presque jusqu'au sol. Les murs sont en briques rouges et le paysage, c'est très beau. Ça, c'est donc le rouge, les prés et les forêts verts, le grand ciel bleu et devant nous, c'est la mer Vaden. On est du côté continent où, à la marée basse, la plupart de la terre se découvre et à la limite, on peut y marcher, mais avec des bottes. Nous nous trouvons dans la cour de cette bâtisse. On est tard dans la matinée. Le soleil nous embaume de sa chaleur de la mer du Nord, donc assez agréable. On vient de terminer plus ou moins notre petit déjeuner. On est assez fluctuant dans les horaires. C'est plutôt libre. Mais quand même, on a notre petit cercle où on décide la logistique de la journée. La plupart restent la semaine entière et on est une vingtaine. Ça, c'est le youhou, le son du rassemblement pour discuter de la journée, de nos activités d'aujourd'hui.
Je vais faire les courses pour le déjeuner et le dîner d'aujourd'hui, mais il faut qu'une fée nous y conduise.
Je me suis déjà porté volontaire pour t'accompagner.
D'accord, super. Yonis et moi allons faire les courses.
Quelqu'un peut m'aider pour le déjeuner?
Ouais, moi je veux bien.
Radical fairies, c'est littéralement en français fées radicales, les fées au sens de ces petits êtres surnaturels.
Guillaume Marsh, sociologue, professeur de civilisation des États-Unis à l'université Paris-Est Créteil.
Alors fairy, ça s'écrit F-A-E-R-I-E, c'est pas l'orthographe habituel du mot qui désigne une fée en anglais, qui s'écrit F-A-I-R-Y aujourd'hui, donc c'est une orthographe ancienne. Ça veut dire que les radical fairies se réfèrent à une image, une représentation de la fée qui est plus médiévale en quelque sorte. C'est une fée païenne, c'est un être surnaturel païen. Et il y a un autre élément très important de cette appellation de radical fairy, c'est que fairy, c'est une insulte homophobe. Fairy, c'est une tapette, c'est une tarlouse, quoi. Donc, revendiquer ce terme pour un groupe d'hommes homosexuels, c'est le fameux retournement du stigmate où des hommes homosexuels endossent le stéréotype de l'homme homosexuel efféminé alors que constamment on leur renvoie dans la figure que si on est un homme efféminé, on n'est pas un vrai homme et donc on est faible et donc on n'a pas de valeur. Ces hommes homosexuels endossent le stéréotype pour dire non, 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 non. Le fait d'être efféminé, le fait d'être une fairy, ça me donne du pouvoir.
I am Universe Planet.
Je suis Universe Planet et je suis nomade et je me sens très holistique en ce moment.
Eftimios?
Je suis Eftimios. Je vis à Athènes, je suis moitié américain, moitié grec. Je suis né en Éthiopie.
Mata Hari.
Je suis Mata Hari.
Vienna.
Je vis à Vienne, mais j'ai pu renaître dans l'espace des fées.
I'm Kulov.
Je suis Kulov et je vis actuellement à Los Angeles.
Je suis Habibi. Mon cœur est à Bangkok, mon corps est à San Francisco et mes fesses sont au Kurdistan.
Je suis Shameless et Shameless n'a pas de limite.
Alors, on est entré dans la bâtisse. C'est une grande salle. C'est comme une grange. Il y a deux de notre groupe de fées qui l'ont décoré le premier jour. Et là, on peut voir des costumes avec des différentes couleurs. Les costumes, ça c'est aussi pour que tout le monde de nous peut les essayer, parce que ce soir, on a un défilé de mode. C'est pas du carnaval, mais c'est pour laisser libre cours aussi à l'imagination, à se défouler, à rire, à rigoler. C'est un moment exceptionnel de joie, de rire, d'être ensemble.
Est-ce qu'on pourrait dire que les fées radicales sont les lointaines cousines ou les proches cousines des drags?
Moi, je les vois plutôt, moi personnellement, comme les proches cousines des hippies. Ceux qui essayent de faire briser toutes ces chaînes qui nous entourent et qui nous empêchent de découvrir tous nos potentiels. Et d'être nous-mêmes dans la vie quotidienne avec nos proches, nos familles.
En ce sens-là, les Radical Fairies sont un bon exemple de contre-culture. La contre-culture américaine repose sur l'idée que c'est en changeant les mœurs qu'on changera la société. Donc, dans la contre-culture, il y a l'idée que ce n'est pas par les canaux politiques institutionnels habituels que l'on pourra faire changer la société. Pour faire changer la société, il faut faire exister ici et maintenant une société alternative, une société différente. Donc la contre-culture met en œuvre des manières d'être, des rapports sociaux qui sont censés préfigurer les manières d'être et les rapports sociaux qui sont censés advenir une fois la Grande Révolution advenue.
Les homosexuels n'avaient pas la vie facile aux États-Unis dans les années 60. Minorité invisible, vivant cachée, harcelée par les autorités, leur cause était largement ignorée, alors que les Afro-Américains ou les anti-guerre du Vietnam agitaient eux la société américaine. Mais en 1969, une explosion de violence après une énième descente de police dans un bar de New York, le Stonewall, va provoquer une prise de conscience.
Franklin est né en 1950 à Montgomery, Alabama, parmi les lieux les plus emblématiques de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Franklin, avant de devenir fait radical, comment résumeriez-vous votre parcours de militant associatif et politique ?
J'ai fait mon coming out en 1970, l'année qui a suivi les émeutes de Stonewall. Et je l'ai fait sur le campus d'une petite université, dans une petite ville de Géorgie, ce qui était très rare à l'époque. Auparavant, cela m'aurait valu d'être renvoyé. Mais comme j'avais des fervents partisans au sein de la faculté et que la guerre du Vietnam était en cours, ils m'ont gardé. J'ai donc commencé à défendre les droits des homosexuels assez tôt. Ensuite, j'ai rejoint le comité pour l'éducation des homosexuels à l'Université de Géorgie. J'ai co-présidé la troisième conférence des gays et lesbiennes du Sud-Est à Atlanta. Et c'est ainsi que sont arrivées les fées radicales dans ma région de naissance. Je suis une fée radicale d'origine. Faire partie des fées radicales m'a, entre autres choses, aidé à comprendre que le genre est une construction. Ce n'est pas quelque chose de naturel. La sexualité est naturelle en termes biologiques, bien que cela soit beaucoup plus compliqué qu'une histoire entre hommes et femmes. Mais le genre est une construction. Vous savez, quand vous êtes petit, vous pouvez porter du rose ou du bleu et cela n'a pas d'importance. Les petits garçons et les petites filles se ressemblent énormément. C'est ensuite que le genre commence à être imposé, récompensé et puni. On vous dit que vous n'êtes pas assez un garçon, que vous ne faites pas les choses comme il faut. On me disait constamment de ne pas bouger comme ça, de ne pas parler comme ça, de ne pas croiser les jambes comme ça. Et c'est ainsi que notre genre a été construit.
Est-ce que l'on pourrait dire qu'au départ, les faits radicales étaient des gays anticonformistes, voire des anarchistes?
Eh bien, non-conformistes, c'est certain. Nous le sommes et nous n'avons pas de hiérarchie, nous les faits. Nous n'avons pas de hiérarchie depuis le tout début. Personne n'est assis sur un trône. Pas de roi ou de reine des faits. Je pense qu'au début du mouvement gay aux États-Unis, il y avait deux branches. L'une était l'Alliance des activistes gays, qui était très politique et dont le thème était « Nous sommes comme les hétérosexuels à l'exception de ce que nous faisons au lit ». Et puis il y avait le Front de libération gay qui disait « Non, nous sommes différents, nous sommes différents ». Et c'est ce qu'incarnent les faits radicales. C'est un autre type de conscience, une autre façon d'être au monde. Et nous apportons un cadeau, qui est la joie, le style et une attitude très détendue en ce qui concerne le genre. Si vos auditeurs pouvaient nous voir, ils constateraient qu'ici, certaines personnes portent des vêtements masculins traditionnels, d'autres des vêtements féminins traditionnels, et la plupart d'entre nous portent un peu des deux.
Ces faits radicales, donc, c'est un groupe d'hommes homosexuels qui revendique une masculinité féminisée ou une forme de féminité masculine, en quelque sorte, et qui décide d'organiser, en 1979, une retraite dans l'Arizona avec l'idée de se mettre à l'écart non seulement de la société états-unienne dominante, mais aussi de se mettre à l'écart du communautarisme gay qui est vraiment en pleine expansion à cette époque-là. Les enclaves urbaines gays se sont beaucoup développées déjà aux États-Unis, dans des villes comme Los Angeles, New York, San Francisco. Et donc, les faits radicales qui se retrouvent dans l'Arizona en 1979 veulent échapper à tout ça pour construire un modèle alternatif. Une manière d'être publiquement homosexuel dans la société états-unienne de l'époque qui ne soit pas conforme à ce qui est en train de devenir le modèle communautaire gay dominant. Les années 1970, c'est quand même aussi l'époque où le clone gay, enfin, il y a toute l'érotisation du corps très virilisé. Elle commence déjà dans les années 70, donc le macho gay, cible de tous les désirs homosexuels masculins. Voilà, c'est quelque chose qui prend vraiment corps à cette époque-là. Donc, voilà, il y a un double mouvement, échapper au communautarisme gay et aussi échapper à l'intégrationnisme et revendiquer sa différence en tant qu'homme homosexuel au lieu de la minimiser.
Et où est mon équipe alors?
Eftimio, c'est pas vous qui faites tout le temps la cuisine pendant toute cette semaine de rassemblement?
Oh, j'en ai pas mal en fait, mais c'est toujours marrant de cuisiner. J'aime bien parce qu'il y a toujours une équipe, on peut papoter, on peut couper les légumes tous ensemble, déformer la musique, c'est comme une fête quoi. Moi, je me souviens de la première fois que j'ai fait ça et j'étais un peu perdu. J'avais pas assez de nourriture pour le monde, alors j'ai dit, faites attention, ne mangez pas beaucoup parce qu'il n'y a pas assez. Ben, ça, c'est une catastrophe parce que ça met les gens en panique. Alors tout le monde a commencé à remplir leurs assiettes. Alors j'ai appris quelque chose sur la psychologie humaine avec cette expérience.
Et alors du coup, qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour l'effet radical?
Écoute, comme on essaye d'économiser, d'être très conscient de la consommation, on avait fait un purée des pommes de terre hier soir, il y en a qui restait. Alors j'ai pris du riz de la journée avant et j'ai mélangé tout avec du fromage râpé. Je vais frire des boulettes. J'attends aussi quelques épices pour la rajouter. De toute façon, ils vont tous dire que c'est délicieux parce qu'ils sont gentils.
Et là, c'est une ratatouille, une pipérate?
Oh oui, un peu. J'ai mis des poivrons, des tomates, de... Oh, ça crame un peu. Je baisse le feu.
Guillaume Marsh, que sait-on des fondateurs du premier rassemblement des faits radicales en 1979 aux États-Unis?
Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des hommes homosexuels, blancs, instruits et qui exercent des professions intellectuelles ou artistiques. Donc il y a John Burnside, par exemple, qui était un scientifique, qui était spécialisé dans l'optique, qui a conçu des kaléidoscopes. Il y a des gens comme Mitch Walker, qui avait une formation de psychologue. Il y a des gens comme Don Kilhefner, qui était un activiste, mais qui avait une formation d'historien et de psychologue. Et ceux d'entre eux qui avaient un intérêt pour la psychologie étaient fortement influencés, notamment par des théories psychanalytiques comme celle de Jung. C'était des hommes qui voyaient dans l'identité homosexuelle une conscience spécifique, une psyché à part, comme si le fait d'être homosexuel donnait une conscience différente de celle des hétérosexuels. Ce sont des idées qui sont très très controversées aujourd'hui, hein, puisque on les taxerait aujourd'hui d'une conception excessivement différentialiste de l'homosexualité, voire une conception essentialiste de l'homosexualité. Mais encore une fois, dans le contexte de l'époque, c'était aussi et peut-être surtout une manière de revendiquer quelque chose de positif qui soit lié à l'homosexualité, de façon à faire face à justement toute cette vulgate freudienne qui était très répandue aux États-Unis à l'époque et qui justifiait la persécution psychologique et psychiatrique des homosexuels.
Alors parmi ces fondateurs, on trouve aussi Harry Hay.
Voilà, donc Harry Hay, c'est un personnage qui a vraiment traversé toute l'histoire politique et communautaire gay de la deuxième moitié du XXe siècle, puisqu'il a été fondateur de la Mattachine Society, il fait partie des fondateurs des Radical Fairies, et il a continué à exercer une influence ou à prendre des positions jusqu'à sa mort en 2002, à l'âge de 90 ans. Donc c'est une figure importante de ce mouvement, de ces communautés. C'est une figure très controversée aussi, en particulier dans les dernières années de sa vie, parce qu'il a apporté un soutien sans réserve à une association qui s'appelle NAMBLA, qui est la National American Man-Boy Love Association. Ça veut dire l'Association nationale américaine de promotion de l'amour entre les hommes et les garçons. Donc c'est évidemment une organisation qui promeut les relations sexuelles intergénérationnelles masculines et spécifiquement entre des hommes adultes et des garçons. Donc quel âge ça a un garçon? Est-ce que c'est un garçon de 7 ans ou est-ce que c'est un garçon de 15-16 ans? Là, le flou est le plus total. Ça l'a totalement marginalisé au sein du mouvement LGBTQ et il est devenu très fortement infréquentable.
Je fais la vaisselle.
Shameless.
Everybody does what they feel like they want to do.
Tout le monde fait ce qu'il a envie de faire et moi ici j'aime bien faire la vaisselle. Alors je me suis porté volontaire pour la faire ces deux derniers soirs. C'est la troisième fois que je viens à Terschelling. La première fois c'était il y a environ 25 ans. C'est agréable d'être de retour et de revoir des visages familiers. À bien des égards, on a l'impression que le temps n'a pas eu de prise sur nous. On reprend donc là où on s'était quitté.
quoique mon premier rassemblement était en 91 à Los Angeles.
Stéphane.
Et des gens avec qui je travaillais étaient allés à des rassemblements avant et m'expliquent que c'est, donc ils m'expliquent que c'est un mouvement spirituel, gay, très connecté à la nature, qui organise des rassemblements d'une semaine ou de longs week-ends et où on peut oublier le chaos du monde pour être soi-même. Et ça a été vraiment une découverte pour moi parce que ça faisait écho à des aspects de ma personnalité et en particulier de ma personnalité gay au sens large, qui jusque-là avait été plutôt secret pour moi dans ma tête, mais pas dans le monde. Je savais pas qu'on pouvait exprimer sa gayitude dans une communion avec la nature et dans une manière de penser plus spirituelle, plus holistique que la manière cartésienne dans laquelle j'ai été élevé. Quand on grandit gay, en tout cas dans ma génération, la grande majorité des gays et lesbiens vivaient cachés, grandit cachés. Ils ont grandi dans en se faisant passer pour hétéro, ou enfin on dira moins, enfin, à peu près quoi. Et donc il y avait des aspects de féminité, de vulnérabilité, de goût artistique, de créativité qui étaient bridés par le fait de devoir passer pour ce qu'on n'était pas. Et donc, c'était ça. Pour beaucoup, c'était ça. C'était de pouvoir exprimer tous ces aspects qu'ils n'exprimaient pas dans leur vie de tous les jours. L'effet radical, c'est un espace sûr dans lequel on peut se permettre ça. On peut exprimer des choses qu'on ne peut pas exprimer même avec ses proches. On peut exprimer des choses plus philosophiques, plus personnelles, plus dramatiques, enfin des choses qu'on se retient dans la vie de tous les jours, par pudeur, par convention sociale. Et là, ça peut se libérer dans un contexte sécurisé, sans jugement, sans attente de la part des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une manière d'être fait radical. Chacun l'est à sa manière. Dans les rassemblements, souvent, il y en a beaucoup qui s'habillent. Il y a tout un vestiaire. Hein. Dans les rassemblements, il y a tout un vestiaire de vêtements assez drôles et assez drag et tout ça. Moi, j'ai jamais eu le besoin de faire ça plus que ça. Je l'ai fait 2-3 fois pour m'amuser. Mais voilà, j'avais pas ce besoin-là. Et moi, par contre, être moi, c'était exprimer ma spiritualité que dans ma famille, on n'exprimait pas. Moi, je me souviens, petit, je pense que j'étais assez spirituel, mais ma famille ne l'était pas du tout. Et donc, je gardais ça pour moi. Et donc, tout ce truc-là, moi, j'ai pu l'exprimer dans les faits radicaux, par exemple, dans la conception de rituels, dans l'apport de certains éléments symboliques, c'est quelque chose qui m'était cher et que j'avais aucune opportunité de partager dans la vie de tous les jours.
Est-ce qu'on peut parler, lors des nombreux rassemblements qui ont pu avoir lieu, de journées types, de semaines types? Quels sont les grands moments qui scandent ces rassemblements de faits radicaux?
Traditionnellement, les points communs, les moments qui scandent la semaine de rassemblement, ce sont les cercles de parole, donc qui peuvent avoir lieu une ou deux fois par jour, en cercle total où tout le monde est là, ou en cercle thématique où les gens choisissent leur thème. Un autre élément de base, c'est les rituels, donc qui sont conçus préalablement au rassemblement par des petits groupes de radical fairies qui décident de faire un rituel sur tel ou tel thème, de telle manière, etc. Et enfin, le dernier point commun à tous les rassemblements, c'est la vente aux enchères. Grosso modo, les radical fairies amènent un objet intéressant, mais pas de valeur particulière, qui sont vendus, et les expliquent pourquoi ils en ont l'objet, et ces objets sont vendus aux enchères, très réellement, ce qui permet de lever des fonds pour permettre de payer les frais des radical fairies qui n'ont pas les sous pour payer les frais d'hébergement et de nourriture, puisqu'il y a quand même une base à couvrir financièrement. Donc ça permet de faire venir des gens qui ne paieront absolument rien en cofinançant leur voyage. Il y a des choses plus festives comme le No Talent Show, qui est le moment où c'est un spectacle où tout le monde peut participer et on peut faire ce qu'on veut sur scène à condition de pas faire ce qu'on fait dans la vie. C'est-à-dire, si on est pianiste de concert, on fait pas un concert de piano. Voilà. Mais sinon, donc, tout le monde peut s'exprimer sur scène et chanter une chanson, dire un texte, danser, etc.
Je dirais pour moi, les moments les plus importants, ça c'est la No Talent Show. Donc c'est un show pour tous les participants. Il y a des gens qui ont vraiment du talent, Donc le nom ne leur fait pas honneur. Il y a des artistes parmi nous, des musiciens, des gens qui sont danseurs ou acteurs, mais il y a aussi des fonctionnaires, il y a de tous bords, et qui n'ont pas l'habitude de se produire. Moi, personnellement, je vais chanter, si je peux le dire, une chanson des Beatles, et ce sera les 64 ans, parce que j'ai encore 64 ans. Donc, cette chanson date de 1967, qui s'appelle « When I'm 64 ». Donc, je vais commencer. « When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine?
Aux sources des faits, avec Guillaume March et l'effet radical, Gert, Françou, Franklin, Eftimios, Shameless et Stéphane. Archivina, Mylène Touché. Traduction, Thierry Beauchamp. Avec les voix de Didier Brice et Romain Lemire. Merci à Stéphane Corsia-Meffre et à l'ensemble des Faits Radicales. Prise de son, Romain Lucquens. Mixage, Marie Lepeintre. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Les Faits Radicales, à la recherche du Gay Spirit, un documentaire de Pierre Chassagneux, réalisé par Julie Béressy. Postcard, drop me a line stating